Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique et celle-ci est une lettre avec des bulles de bandes dessinées, des bandes dessinées américaines bien sûr. Hi everyone. J'ai décidé cette semaine de laisser un peu de côté les lettres liées à la politique. On y reviendra, bien évidemment. C'est vrai que entre l'élection au mois de novembre, la contestation des résultats, l'attaque du Capitole et ensuite l'investiture, c'était compliqué d'être décalé et de sortir de l'actualité politique américaine. Mais cette semaine, on va aller sur toute autre chose. Quoique, il y a aussi une part de politique. On va parler bande dessinée. Évidemment, la bande dessinée d'auteurs américains ou de la bande dessinée qui parle des États-Unis. Alors, c'est un choix totalement subjectif, hein. Fin janvier, normalement, a lieu le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Je suis originaire d'Angoulême, donc c'est un festival que je connais bien. Alors, pour compenser un peu, eh bien, je vais parler de bande dessinée à travers des œuvres que j'ai emportées ici à New York. Alors, j'en ai en France des centaines, donc la plupart sont restés sur place, bien évidemment, parce que c'est trop lourd. Mais celles que j'ai prises avec moi ont presque toutes un lien avec les États-Unis. D'ailleurs, New York, où j'habite, fait penser à la bande dessinée en beaucoup de points. De mon bureau, je vois la skyline de Manhattan, enfin, une des skylines de Manhattan. D'ailleurs, ça fait très bande dessinée, c'est pas compliqué d'imaginer Spider-Man faire des bonds d'immeuble en immeuble. Spider-Man qui est New-Yorkais, rappelons-le, la maison de Peter Parker est même dans le Queens. Alors, New York, c'est aussi en partie le Gotham City de Batman, qui est en fait une ville fictive, évidemment, mais inspirée de New York, qui serait située dans le New Jersey. New York fait aussi penser à la ville de Métropolis. Pour Superman. Alors, j'ai pas emporté beaucoup de bandes dessinées, hein, je vous le disais, c'est trop lourd, mais je vais en feuilleter quelques-unes avec vous et on va parler super-héros. On parlera aussi histoire. On ira dans le Wisconsin, mais pour l'essentiel, on restera à New York. Alors, la première bande dessinée que je vais feuilleter avec vous, c'est en fait une édition spéciale consacré à Jack Kirby. Alors Jack Kirby, c'est un peu l'inventeur des comics modernes tels que on les connaît, hein, c'est-à-dire racontant des histoires de super-héros. Il est d'ailleurs surnommé le King of Comics. Il a transformé ce que l'on appelait avant les comic strips, c'est-à-dire des petites histoires vendues 10 cents avec les journaux des week-ends. Et il crée dans les années 40 un personnage que vous connaissez bien, Captain America. Et puis avec Stan Lee, il va créer les Quatre Fantastiques, les X-Men, Thor et les Avengers notamment. Alors, au début, il a donc l'idée de créer un héros habillé aux couleurs du drapeau américain qui va mettre au tapis Hitler dès le premier numéro de Captain America qui sort en mars 1941. Les États-Unis ne sont pas encore alors entrés en guerre. Captain America, bon, c'est pas mon personnage de bande dessinée préféré, mais il est très important dans l'histoire de la bande dessinée américaine et dans l'histoire américaine tout court. Il fait appel aux valeurs américaines, bien sûr, les signaux sont assez clairs. Hein. Captain America avec son uniforme aux couleurs de l'oncle Sam, c'est de la communication politique ou de la propagande, comme vous voulez. Les démocraties aussi peuvent faire de la propagande. Et dans les années 40, ce sont surtout les militaires qui lisent ces exploits pour gonfler leur morale quand ils sont au front. 1 million d'exemplaires sont alors vendus chaque mois. Alors Jack Kirby, qui a eu pas mal de problèmes à faire valoir ses droits d'auteur de son vivant, et c'est bien dommage pour lui, puisque au début, il a signé un contrat selon lequel il ne touchait rien sur les personnages qu'il avait créés. Et c'est un peu une constante hein, avec les pères des super-héros. Ça a été le cas aussi des créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster. Ils vendent pour la première fois leur histoire en 1938, l'histoire d'un extraterrestre à la force surhumaine. qui vient d'une planète à l'agonie. Superman, à l'époque, il se bat pour la justice et les valeurs du New Deal du président Roosevelt, le New Deal mis en place après la crise de 1929. Alors le tarif de leur première vente inclut les droits sur le personnage, c'est le symbole d'une mauvaise négociation et même a posteriori d'une arnaque puisque Superman va connaître le succès que l'on sait, des bandes dessinées, des produits dérivés et un thème musical bien connu. À l'époque, si vous aviez envie de voir un gars avec une cape volée au-dessus d'un gratte-ciel ou réduire New York à l'état de décombre, eh bien, il fallait lire une bande dessinée. Maintenant, il y a les salles de cinéma. Cette phrase, elle n'est pas de moi, mais de Art Spiegelman, qui est l'un des plus grands auteurs de bande dessinée, peut-être le plus grand. En tout cas, il est le seul auteur de bande dessinée à avoir obtenu un prix Pulitzer spécial en 1992 pour Moss. Moss est inspiré de l'histoire de son père qui est rescapé des camps de concentration. Une histoire où les juifs, une bande dessinée où les juifs sont des souris et les nazis des chats. C'est un récit assez monumental, poignant. Quand je veux offrir une bande dessinée à des amis qui ne sont pas spécialement intéressés par ça, j'achète Moss et c'est quand même assez rare que quelqu'un n'aime pas, même quelqu'un qui n'est pas familier avec le 9e art, comme on dit. Alors, dans cette bande dessinée, il y a deux narrations. Le présent, à New York, où Art Spiegelman raconte ses relations difficiles avec son père, et le récit de son père, Vladek, dans les camps de concentration. Alors voilà pour Moss. Autre bande dessinée de ma bibliothèque, version light. Une histoire populaire de l'Empire américain. Alors, c'est une adaptation du livre du même nom d'un universitaire qui s'appelle Howard Zinn. Le livre est une somme. Alors, je l'ai pas lu, hein, j'ai juste lu la bande dessinée, je vais être honnête. Mais déjà, ça donne une bonne idée parce que le principe est assez intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de Captain America qui était un outil, personnage de propagande. Alors là, c'est l'inverse, hein, c'est une vision critique des États-Unis, de l'histoire américaine, et c'est raconté sous l'angle des acteurs les plus modestes. En fait, dans la bande dessinée, il confronte la version officielle, parfois la version héroïque, au témoignage des acteurs dont on entend rarement la voix ou le témoignage. Le dessin est assez simple, pour être honnête, c'est pas ce qui me plaît le plus dans la bande dessinée, mais on y apprend plein de choses, on y explore les côtés sombres, les massacres des Indiens, l'exploitation de la classe ouvrière, la ségrégation raciale, le colonialisme déguisé ou bien le soutien aux dictatures. Et on y découvre des histoires méconnues comme le massacre de Ludlow en 1913. J'en avais jamais entendu parler. C'était dans le Colorado. Des mineurs se sont mis en grève parce qu'ils travaillaient dans une mine qui appartenait à la famille Rockefeller. Et ils étaient en grève après une série d'explosions dans ces mines et ils voulaient protester contre les conditions de vie moyenâgeuses. Donc du coup, ils ont érigé des tentes pour occuper le site. Ça s'est assez mal passé avec les propriétaires qui ont appelé le gouvernement et l'armée. Et un soir, les soldats ont incendié une des tentes et ils ont ouvert le feu sur les personnes qui étaient à l'intérieur. Et 13 enfants ont été tués. Voilà, cette histoire qui n'est pas souvent racontée, elle donne une idée de la violence qui pouvait régner à cette époque. Alors dans cette bande dessinée, hein, une histoire populaire de l'Empire américain, vous avez beaucoup d'histoires comme ça, certaines moins tristes, certaines connues, d'autres pas connues du tout. Et dans l'ensemble, c'est une critique poussée du capitalisme. C'est pas forcément une bande dessinée qu'on lit de A à Z, mais qu'on vient picorer un peu. Alors je reviens aux bandes dessinées avec New York en toile de fond, c'est un peu le fil rouge que je voulais donner à cette lettre d'Amérique, même si Il y a beaucoup de bandes dessinées américaines intéressantes sur les autres parties du pays, bien sûr. Mais je veux juste d'ailleurs vous citer une seule bande dessinée hors New York, on va dire, qui s'appelle Blankets, le manteau de neige en français. C'est une bande dessinée de Craig Thompson. Ça se passe dans le Wisconsin, dans une petite ferme au fin fond de cet état du Midwest. C'est une histoire d'amour entre adolescents, mais en toile de fond, ça parle de l'emprise familiale, du harcèlement scolaire, ou bien encore du poids de la religion, et c'est vraiment très bien. L'auteur Craig Thompson, c'est son histoire en fait. Il a reçu deux prix Eisner, l'équivalent de nos Fauves d'Or en France, décernés au Festival d'Angoulême. Et ça m'offre une transition, puisque c'est de lui, de Will Eisner, dont je voulais ensuite vous parler. C'est l'un des papes de la bande dessinée américaine. Il a d'ailleurs été récompensé à Angoulême en 1975. Il est notamment connu pour son personnage et sa bande dessinée qui s'appelle The Spirit, dont le personnage principal est une sorte de héros ou de anti-héros, on ne sait pas trop. En tout cas, un héros que certains ont qualifié de héros de la classe moyenne, qui est bien loin en tout cas des super pouvoirs de Batman ou de Superman. Et Will Eisner a surtout, outre cette bande dessinée, a exécuté une trilogie magistrale sur New York en trois volets, intitulé La ville, l'immeuble et les gens. Et ses dessins, c'est des tableaux. Il brosse des scènes de vie, parfois un peu mélancoliques. Mais on y voit New York au quotidien, New York qui évolue au fil des années et des migrations. C'est parfois assez contemplatif. Il peut mettre en scène, par exemple, un réverbère ou une bouche d'incendie. Mais c'est quand même très bien fait. Il décrit aussi très bien le côté à la fois stressant et enivrant de la ville. Et on voit d'ailleurs l'auteur de dos avec sa casquette et son carnet de croquis sur certaines planches. Et il y a quelqu'un qui décrit très bien Will Eisner, c'est le scénariste Alan Moore, qui a créé notamment V pour Vendetta ou les Watchmen. Et il dit d'Eisner, il a transformé la bande dessinée en lecture intelligente. Alors, quand on aime la bande dessinée, il peut y avoir une idée de visite, de parcours. Si vous allez à New York, puisque on en parlait évidemment, New York a inspiré beaucoup de bandes dessinées, une idée de quand les voyages redeviendront possibles, assez rapidement on l'espère. Par exemple, le premier QG des Avengers, avant de migrer dans la tour Stark, eh bien c'était au niveau de la Frick Collection. La Frick Collection, c'est un musée new-yorkais, un des musées plus intéressants d'ailleurs, qui est situé près de Central Park. Et il y a aussi des scènes de combat hein, qui se passent dans Central Park, dans Avengers. Voilà, c'est un peu l'instant geek. Dans l'un des Batman, je continue un peu la visite à travers les bandes dessinées, il y a quelques scènes qui ont été tournées devant la Trump Tower. Daredevil, si vous avez lu ou vu, puisqu'il y a une série aussi, combat souvent dans le quartier de Hell's Kitchen. Et dernièrement, vous avez aussi une scène sur les escaliers dans le Bronx, rendu célèbre par le film Joker, où Joaquin Phoenix fait une prestation inoubliable. Voilà, alors, si j'ai voulu vous parler aujourd'hui de bande dessinée, c'est parce que bah, déjà j'aime bien ça, j'espère que vous aussi, mais même si on ne connaît pas bien, enfin on n'est pas obligé de bien connaître la bande dessinée pour en mesurer son importance dans l'histoire et sa place en tant que reflet d'un pays à un moment donné. Mais je suis persuadé, même si on ne suit pas l'actualité de la bande dessinée, il y en a toujours une ou deux qui peut plaire ou toucher. Et puis si j'ai voulu consacrer cette lettre d'Amérique à la bande dessinée, c'est aussi parce que m'est arrivé quelque chose de un peu étrange en feuilletant il y a quelques jours, justement en préparant cette chronique, une bande dessinée de Tardi consacrée à New York. Et tout bêtement, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'habiter dans cette ville. Alors ça peut paraître idiot, hein. J'y suis, en plus je suis à Manhattan, en plein centre, avec une vue assez impressionnante. Mais c'est un peu comme quand vous habitez à Paris ou dans d'autres villes, mais forcément Paris a de nombreux atouts. Vous êtes pris dans votre quotidien et vous oubliez que vous habitez dans la ville où il y a la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Montmartre ou Notre-Dame. Bah, c'est un peu pareil pour moi à New York, même si ça fait pas des années que j'y suis. Parfois, la fiction quand même vous remet un peu dans la réalité. Les livres sont faits pour ça, les bandes dessinées aussi. Alors, on va se quitter avec un morceau des Ramones, un excellent groupe, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le titre, lui, est assez simple. Il s'appelle Spider-Man. Thank you and goodbye. Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur AudioNow et sur toutes vos plateformes favorites.